Podcast.com. Essaye ça.
L'Express du 24 janvier. C'est passé des choses, hein? Notamment en politique American, en politique Canadian. Aïe, aïe. Bon, ben oui, c'est tombé. Le jugement de la Cour fédérale a déclaré qu'il était déraisonnable et illégal de proclamer la loi sur les mesures d'urgence lors du convoi de la Barté, Ottawa. Ça entre en contradiction avec la décision du juge Rouleau. Mais en même temps, je trouve ça... Je suis pas vraiment déçu. Je trouve ça assez sain. Comme j'ai dit à certaines personnes en privé. Ce que je comprends, moi, de la décision, c'est que... Le siège d'Ottawa, c'était cave. Mais c'était pas une menace directe à la sécurité nationale. C'est ça la nuance. Parce que, oui, les conspires crient victoire. Ben, qui crient pas victoire trop vite parce que, un, c'est pas fini. Et puis, deux, ben, en même temps, tu sais, je pense que, tu sais, je trouve que c'est d'une certaine façon rassurant de voir qu'on ne peut pas invoquer cette loi-là facilement, sans la justifier plus qu'il n'en faut. Parce qu'oubliez pas que cette loi-là, c'est l'espèce d'évolution, de la nouvelle mouture, de modernisation de la loi des mesures de guerre qui a été à l'encontre de toute la population du Québec hein, dans les années 70. N'oubliez pas ça, quand on est d'accord avec... Quand on n'est pas d'accord avec les personnes qui sont touchées par... Tu sais, je suis convaincu que les fédéralistes puis les Anglais étaient bien contents que... que Trudeau père passe la loi des mesures de guerre en octobre 70. Ils se disaient, hey, là, ça va faire, là. Ils mettent des bombes puis tout ça, puis... Puis déjà là, c'était plus violent qu'Ottawa, on va le dire, là. mais la loi des mesures de guerre, c'est un épisode noir hein, dans l'histoire du Canada, surtout du Québec. Où on se donnait des droits à peu près dictatoriaux d'arrêter à peu près n'importe qui dans la rue. « Hey, t'as une barbe, toi, tu dois être un syndicaliste puis un communiste. Ah ouais, embarque dans le char. » C'était comme ça. Là. On faisait des arrestations arbitraires. On emprisonnait des gens sans raison, surtout sans preuve. Il faut faire attention avec ces lois-là. Parce que ces lois-là viennent jouer dans la démocratie, viennent jouer dans la Constitution, nous privent de certains droits, comme celui de manifester. Puis c'est ça qu'on va... qu'on a argué du côté de la décision, c'est que ça a brimé le droit de la manifestation. Parce que c'est vrai qu'il y en a là-bas qui manifestaient, bon, paisiblement, non. Mais une manifestation paisible, c'est pas une manifestation. Mais il y en a qui étaient quand même, tu sais, il y avait un certain savoir-vivre. Il y en a une méchante gang aussi qui savait pas vivre, puis qui brisait tout, puis qui faisait des klaxons toute la nuit, puis... Qui foutait le feu, puis qui faisait des spas, puis des raves toute la nuit, ça pinote, puis ça, on s'en rappelle. C'était un petit peu excessif. Puis ça, surtout que ça a duré des semaines. C'est ça le problème, c'est que ça a duré beaucoup trop longtemps. C'est là que la chaîne a débarqué, comme dirait Martin. Puis c'est. Il y a aussi le phénomène de la. Le phénomène. Il y a aussi le fait que la police d'Ottawa a fait preuve de beaucoup de laxisme. Et n'a pas fait sa job. Je pense qu'on peut le dire. Puis c'est pas juste mon analyse à moi. Là. Je connais pas plus que vous autres. Mais quand je regarde des observateurs qui, eux, s'y connaissent, eux autres calculent que la police d'Ottawa n'a pas fait son travail, a laissé la digue ouverte, puis on a laissé le monde embarquer au centre-ville avec leur gros truck, puis à se promener avec des bidons de gaz. Puis c'est ça. La province de l'Ontario a à peu près rien fait. La police d'Ottawa a à peu près rien fait. un peu comme s'il avait peur. J'ai l'impression que le chef de police avait peur de se faire reprocher de brimer des droits de manifester. Parce que c'est touché, la Constitution, on est censé la respecter. Et quand on le fait pas, ben ça finit en cour. Donc, le juge, c'est ça, il dit que la loi violait la liberté d'expression des manifestants. Quand celle-ci avait une portée excessive en s'appliquant à des personnes qui voulaient manifester, mais qui ne s'engageaient pas dans des activités susceptibles de troubler la paix. C'est ça le problème, c'est qu'il y a, pour une gang d'épais, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par cette loi-là, puis qui n'auraient pas dû être touchés, qui manifestaient normalement, ou presque normalement. Tu sais, que les raisons soient bonnes de la manifestation, ça intervient pas du tout dans le débat. Ça aurait pu être une manifestation en faveur de la criminalisation de l'avortement, puis ça aurait pas plus rapport, tu sais, que le juge se demande pas s'il est d'accord avec les revendications des manifestants, là, parce que... Il y en a qui disaient là, qu'il fallait pendre Trudeau. Puis, mais tu sais, ça, c'est des crackpots dans des coins. Mais je pense pas que... C'est pas allé aussi loin, en tout cas, que le Capitole, où les gens l'ont carrément pris d'assaut. Il n'y a pas eu d'attaque, de prise d'assaut. Il n'y a pas eu... Il n'y a rien eu de ça. Fait que est-ce qu'on était content quand on a vu que la police faisait le ménage? Oui. Surtout les gens d'Ottawa. Sauf que ce ménage-là, il n'aurait peut-être pas été à faire d'une façon aussi radicale si la police, au départ, avait fait son travail. Avait pas laissé un nombre indécent de camions rentrer puis se stationner au centre-ville et se faire approvisionner en gaz de toutes les façons illégales possibles. Mais bon, en tout cas, les conspirationnistes qui étaient là et qui dénonçaient la dictature canadienne vont remarquer que la dictature est bien soft et que les droits constitutionnels, ben crime, il y a du monde qui y veille et que la cour, les juges n'ont pas de parti pris envers le gouvernement ou envers les manifestations, c'est-à-dire qu'ils ont rendu un jugement sur une base légale, sur une base de loi juridique. Ils en sont venus à cette conclusion-là. Il en est venu à cette conclusion-là. Dans une dictature, il n'y en aurait pas eu de il n'y aurait pas eu aucun recours pour contester l'utilisation de cette loi-là. Donc, cette loi-là, ben, qui c'est ça. C'est une loi qui est radicale. C'est une loi qui suspend des libertés. Puis, les libertés, la meilleure façon de les conserver, c'est de les exercer. Et lorsqu'on les cède à un gouvernement, puis je sais qu'il y a des conspis qui ont dit ça, c'est vieux comme le monde, puis c'est su, c'est connu. Lorsqu'on cède des libertés au gouvernement, elles reviennent rarement. Donc le droit de manifester, si on veut qu'il soit protégé pour nous, il faut qu'il le soit pour tout le monde. Ceci dit, est-ce que le juge a raison? Pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs, le gouvernement n'est pas d'accord. La vice-première ministre, Chrystia Freeland, dit « On respecte complètement le système indépendant judiciaire du Canada, mais avec tout le respect, on n'est pas d'accord avec cette décision et on va aller en appel. » Donc, c'est pas terminé. Le gouvernement va aller en appel pour tenter de faire valider son invocation de cette loi-là, parce que la loi est là pour être utilisée. Mais utilisez le moins possible, pour des raisons que je vous ai expliquées, que vous comprenez de toute façon. Donc, on va aller en appel, puis possiblement que ce sera renversé, ce jugement-là. Donc, faut pas crier ni victoire ni défaite. De toute façon, il n'y a pas de vainqueur. Les conspirationnistes ne gagnent rien là, là-dedans. Là. Puis nous non plus, puis... Ce qui est important, c'est que cette loi-là, on soit certain qu'elle est utilisée à bon escient, parce que comme je le disais, c'est une loi qui est pas dangereuse, mais délicate. C'est une loi qui entame la démocratie, qui intervient dans nos libertés. Fait qu'il faut que ce soit utilisé dans des cas extrêmes. Par exemple, le barrage de Coutts. Tu sais, ça, des ponts coupés, des frontières bloquées entre deux pays, ça, c'est pas mal plus susceptible, je crois, de justifier l'utilisation de cette loi-là. Parce qu'il y a une question de sécurité nationale. Nos frontières, c'est nos frontières. Puis on peut pas laisser une gang de conspis ou même de manifestants qui ont un bon point, qui sont moralement plus acceptables ou mieux informés, qui ont des points mieux informés. On peut pas laisser des manifestants gérer nos frontières. Fait que dans ce cas-là, je crois que c'était pas mal plus justifiable, en tout cas, pour le gouvernement d'utiliser ou d'invoquer plutôt cette loi-là. C'était la première fois qu'elle était utilisée, hein, depuis 1988, où ce qu'on a décidé de moderniser la loi des mesures de guerre. Ça a moins de dents que la loi des mesures de guerre, et c'est une bonne chose, mais c'est sensiblement la même chose. Le but, c'est d'accorder au gouvernement des pouvoirs extraordinaires, c'est-à-dire qui empiètent sur nos droits et libertés, mais qui peuvent s'avérer nécessaires pour régler une crise. Mais il faut que ce soit extrême comme crise. Il faut que ce soit un danger pour la démocratie, pour la sécurité nationale. Puis bon, on conclut que c'est pas ça qui est arrivé. Mais c'est bon de rappeler que le juge Paul Rouleau, lui, jugeait que c'était justifié. Mais il y avait quand même soumis la petite nuance suivante, c'est que ça aurait été évitable si les choses avaient été faites autrement dès le départ. Autrement dit, si la maudite police d'Ottawa avait pas réagi en s'assoyant sur ses mains et en disant « Ben là, on sait pas quoi faire. Bon, on fait rien. » L'axiste de des forces de l'ordre au début de cette manifestation-là, disons dans la première semaine, a provoqué une escalade parce que ça a donné l'impression aux manifestants qu'ils pouvaient agir en toute impunité. Puis c'est pas mal ça qui s'est passé. Hein. Ils ont pas mal fait ce qu'ils voulaient. Ils ont terrorisé les quartiers, les résidents des quartiers. Ils ont troublé la paix à faire crier leur criard de leur klaxon de van toute la nuit en faisant des gros parties rave avec de la grosse musique électro puis le monde gelé ben raide, c'est speed, danser, puis... quand c'est rendu que tu te fais un spa, c'est parce que tu te sens un peu trop chez toi. Mais si le juge Rouleau considérait que c'était justifié, et là, la Cour fédérale vient, en fait, le juge Richard Mosley le contredit en disant que ça violait la liberté d'expression des manifestants. On pourrait dire que c'est un à un, puis pour vrai, le gouvernement libéral pourrait dire « Bon, ben, regarde, on va arrêter ça là. » Mais non, ils ont décidé d'aller en appel. Ils vont aller en appel. On va voir ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression que cet appel-là est plus motivé par des considérations électorales. Parce que ça fait mal, hein, au gouvernement Trudeau, qui est de moins en moins populaire, qui a de plus en plus de difficultés à justifier sa persistance au pouvoir. Qui subit les attaques incessantes du Parti conservateur et de Poiliev qui lui se caressait hier quand le jugement est sorti. Évidemment, il va faire ses choux gras là-dessus. Les conservateurs vont dire « Ah, on le savait! Gna, gna, gna. Trudeau divise, nous autres, on va rassembler. Chewbacca, gelé ses speed. Eh bien, ah oui. Je sais pas si t'as vu les images du monde qui faisait les raves la nuit à Ottawa, là. C'était pas des gens en possession de leurs moyens. La sobriété n'était pas de mise. Fait que, ouais, gelé ses speed, je le dis de même. Mais bon, fait qu'on va suivre ça. On va voir si le gouvernement va réussir à sauver la face avec en appel. Mais ça va pas bien, hein, pour Trudeau, ça va pas bien du tout. Puis malheureusement, la seule autre option qui semble exister, c'est le Parti conservateur, le NPD. Retourné dans le. En arrière de l'autobus, puis il sert à faire du poids ses roues quand ça glisse, là. C'est bien dommage. D'ailleurs, le NPD n'a pas commenté, d'après ce que j'ai vu, Jack Meeting. Et il restait pas mal muet là-dessus. Ben, il a dit, on a toujours dit que la crise était le résultat d'un manque de leadership de Justin Trudeau. Bon, c'est assez faible. Tandis que Poiliev, lui, il se gâte. Il dit, Justin Trudeau a provoqué la crise en divisant les Canadiens, sûrement avec les mesures sanitaires. Ça, c'est la partie je séduis les conspis de Poiliev. Il a ensuite violé les droits garantis par la charte pour réprimer illégalement nos citoyens. Ça, le juge Rouleau n'était pas d'accord avec ça. Le juge qui a tranché hier, lui, oui. On verra comment ça sera débattu en appel. Mais évidemment, là, les conservateurs, c'est ça qu'ils vont faire. Dans les prochains jours, là, ça va être à bras raccourcis, puis on rentre dans le gras du Parti libéral. On leur fait mal le plus possible. Et ça va être facile parce que ils sont pris en défaut. Pour l'instant, ils sont pris en défaut. Et ils auraient invoqué cette loi-là. Mais tu sais, faut pas capoter non plus. Je sais que les conspis vont dire « on avait raison, on avait une gang de corrompus, puis là, une dictature. » Non. C'est possible que vous aviez raison sur l'utilisation de la loi des mesures d'urgence. Quoique j'ai pas vu de conspirationniste intervenir sur ça, sur l'utilisation de la loi des mesures d'urgence. Eux autres, c'est « dictature, puis t'as dictature, puis dictature. » Fait que, est-ce que... je suis convaincu qu'il y en a qui vont comprendre que le juge est d'accord avec eux autres, puis que les mesures sanitaires, ça va pas rapport, puis que Justin Trudeau t'a dictateur. Non, non, tout ce que ça veut dire, c'est que Justin Trudeau n'avait pas le droit d'invoquer cette loi-là, selon le juge Richard Mosley. Ça vous donne pas raison sur les mesures sanitaires, ça vous donne pas raison sur vos théories de pandémie, puis vos affaires de dictature, puis vos autres délires paranoïaques de conspi débiles. Calmez-vous, là. Ça veut juste dire que cette loi-là n'aurait peut-être pas dû être invoquée. Ou n'aurait pas dû. On va y aller dans le présent. Pour l'instant, Paul Rouleau avait dit qu'elle était justifiée. Là, une instance supérieure dit qu'elle n'était pas justifiée. Donc, on va dire qu'elle n'était pas justifiée. Puis, on va attendre les débats en appel pour voir ce qu'il y en est, comment ça va se terminer, quel sera le jugement définitif de la justice, de la société, sur l'utilisation de cette loi-là. Ça rend pas non plus la manif légale. Je sais pas si la manif était légale ou non. Une manif, c'est censé être légal. C'est une occupation. À partir de quand c'est une occupation, ça, c'est un autre débat. Mais c'est pas là-dessus qu'on a tranché. Tout ce qu'on a tranché sur l'utilisation de la loi des mesures d'urgence, et selon la Cour fédérale, ce n'était pas justifié. Pas parce que c'était bien correct puis tout le monde était paisible. C'était pas assez extrême et ce n'était pas une menace suffisante à la sécurité nationale pour l'utiliser, pour l'invoquer. C'est ça qu'on dit. C'est ce qu'on apprend. Est-ce que je fais une pause? Non, 48. Il ne me reste pas grand temps. Je vais aller passer. Je vais passer ce temps-là avec vous. Puis je mettrai une pause à la fin. C'est ça que je vais faire. Colin. Une autre grosse nouvelle. Celle-là est décevante aussi. Peut-être même plus. Hier, il y avait lieu les élections primaires au New Hampshire. Je rappelle que, avant de tomber dans la républicaine, que pour les primaires démocrates, le nom de Joe Biden n'était même pas inscrit sur le bulletin de vote parce qu'ils se sont chicanés avec les démocrates locaux du New Hampshire. Mais bon, il a quand même remporté la primaire. Les gens, ce qu'ils ont fait, puis il avait le droit de faire ça, c'est-à-dire d'écrire à mitaine sur le bulletin de vote Joe Biden, puis faire une petite coche à côté. C'est-tu de la bouette, leur système? Pour vrai, là. Ça mériterait une réforme. Ça mériterait d'être modernisé, là. Le système électoral américain, pour vrai, là, c'est archaïque, c'est complexe, c'est lourd, c'est primitif, avec des votes sur des napkins puis des mains levées. Mais bon, les Américains sont pas bien bons pour se réformer eux-mêmes, là. Ils sont tellement convaincus d'avoir toujours la meilleure façon de faire toutes les choses. Fait que ça va sûrement rester comme ça. Mais bon, Biden a quand même remporté la primaire, ce qui était normal. Je veux dire, ça va être lui, là. Ça va être lui contre Trump. Ça va être les élections gériatriques du siècle. On va avoir deux vieillards en perte d'autonomie intellectuelle qui vont aller. Ah, le débat va être dégueulasse si jamais Trump y va, parce que moi, je pense qu'il n'aura peut-être pas le courage d'y aller. Surtout si jamais il se sent en avance, il n'ira pas. Mais ça fait dur. Puis, bon, côté républicain, évidemment, Trump a gagné, mais ça n'a pas été un landslide, comme il aime dire lui-même. Il y a eu 54% des voix contre 46% pour Nikki Haley. Ça donne 11 points d'avance. 163 000 bulletins. Nikki Haley, plate à dire, mais son chien est pas mal mort. Parce que d'habitude, ceux qui gagnent l'Iowa et le New Hampshire, après ça, ne sont plus inquiétés dans leur course à l'investiture. Donald Trump, vraisemblablement, sera le candidat républicain. DeSantis, on se rappelle, à la primaire de l'Iowa, au terme du vote, s'est couché sur le dos pour exposer ses parties génitales en signe de soumission à Donald Trump, qui a donné un petit coup de langue de bénédiction dessus pour dire « Bon, ben maintenant, t'es dans mon team. » Il s'est rallié. Nikki Haley, elle, non, elle ne se rallie pas, elle ne s'écrase pas et continuera la course, même si elle est vraisemblablement perdue, quoique, tu sais, reste petite possibilité. Mais c'est une petite possibilité, c'est vraiment mince, mais ne serait-ce qu'au moins pour lui nuire un peu. Parce qu'il est dangereux, Donald Trump, tout le monde le sait, puis même au Parti républicain, on le sait. Il y en a qui vont voter républicain à la présidentielle en se bouchant le nez. Il y en a peut-être qui vont changer de camp, mais je pense pas. Puis là, la bataille est sur c'est qui le plus sénile des deux. On est rendu là aux États-Unis. Là. C'est pas c'est qui le meilleur gestionnaire, c'est qui le meilleur diplomate, lequel est en mesure de mieux gérer la politique internationale ou de relever l'économie, de créer des emplois, d'assurer la paix. Non. C'est lequel qui est capable de se rappeler son nom le plus vite quand on lui demande. C'est ça, maintenant, ça va être ça, là. Il aime pas qu'une femme le traite de vieille croûte sénile. C'est plate, mais si Nikki Haley va pas être une femme, je me demande, elle aurait peut-être eu plus de votes. Est-ce que les Américains sont prêts à voter pour une femme et la mettre au pouvoir? Il me semble que ça ferait du bien. Hein? Même une républicaine. Pour vrai, je connais pas tant que ça les politiques de Nikki Haley. Je pense qu'elle a 52 ans dans ce coin-là. Ce que j'ai remarqué de elle, c'est qu'elle est full power. C'est une femme puissante, c'est une femme qui est en possession de ses moyens. Je suis probablement en désaccord avec l'ensemble de ses politiques, parce que, bon, au Parti républicain. Mais ça aurait peut-être été mieux que Biden. Biden n'est pas sénile, il est juste trop âgé. Ouais. Je cherche la nuance là-dedans. Ben, je veux dire, il montre certains signes de sénilité. Je suis pas en train de dire qu'il fait pipi à côté de la bolle, là. Mais ça y arrive d'avoir des petits problèmes entre les deux biscuits, puis on dirait des fois que c'est long à loader, là. Puis quand ça load, il y a un 404 entre les deux oreilles. Des fois, on voit que la vitesse intellectuelle de Biden n'est plus là. Et celle de Trump non plus. Trump, tu sais, qui arrête pas d'attaquer Biden sur le fait qu'il y a des petits signes de... des petits signes d'âge qui se manifestent. Mais de son côté, Donald Trump, lui... Dans des rallyes, des fois, il est convaincu qu'il a battu Barack Obama en 2016. Alors qu'il n'a jamais fait d'élection contre Barack Obama. Il n'a jamais affronté Barack Obama. Mais il raconte avec une assurance incroyable que tout le monde pensait qu'on pourrait pas battre Obama, puis on l'a battu, Obama. Non, tu t'es pas battu contre Obama. C'est une blague. OK. Ou bien, il sait pas dans quelle ville il est, il se trompe. Ou il parle de la... la dangereuse éventualité de l'avènement d'une deuxième guerre mondiale. Il se souvient plus que la deuxième guerre mondiale a eu lieu entre 39 et 45. Lui aussi, il en perd des bouts. Les deux en perdent des bouts. Les deux sont trop vieux. Puis en plus, Trump, c'est un esti de fou. C'est sûr que Biden, c'est mieux que Trump. C'est certain. Mais les Américains aiment ça avoir un président fort. Surtout quand la géopolitique est instable, quand il y a de la guerre un peu partout. Puis là, il y en a. La Russie et l'Ukraine, le Moyen-Orient, la bande de Gaza. De l'instabilité comme ça, historiquement, ça a fait élire des présidents qui avaient une image plus de guerrier puis un peu plus belliqueux. Des George W. Bush. Puis des Donald Trump. Sauf que, tu sais, on l'aimait pas Bush, là, mais pour vrai, c'était il était pas mal soft comparé à Trump. Il était pas mal moins niaiseux. On le traitait de niaiseux. Vous rendez-vous compte, on n'en revenait pas à quel point ce président-là, il était obnoxious, arrogant. Arrogant et niaiseux. Now watch this drive! Il avait de l'air d'un cave. Il avait l'air d'un Yahoo avec son chapeau de cowboy. Puis Colin, quand on regarde Trump, on dit crime. C'était un intellectuel, finalement, lui, au Parti républicain. On est mal barré. Ça regarde très mal. La droite monte un peu partout. En Argentine, récemment, il y a eu le crackpot qui a été élu là. Comment il s'appelle? Javier, je sais plus quoi. C'est ça, en Argentine? Puis... On risque de se ramasser avec Trump aux États-Unis puis Poilievre au Canada. Bon, on a eu un balancier. Hein? On a un balancier qui se promène. Il est allé pas mal à gauche avec... avec Obama. Quand je dis gauche, je parle de la gauche américaine, ce qui est notre droite. Puis nous autres, notre droite, c'est... Oui, Javier Milei, c'est ça. Brésil, ça se peut. Puis, Poilievre, qui est à notre droite, mais pas à la gauche de la gauche même américaine. Là. Mais on a eu Trudeau qui était un gouvernement plutôt de gauche. Puis là, bon, on dirait que le balancier n'est pas capable de rester d'un côté ou encore moins au centre. Puis là, bon, on s'en va vers la droite. On va traverser au moins 4 années, si c'est pas 8. Avec des... OK, j'avais raison. C'est l'Argentine. C'est l'Argentine. Pour Javier Milei. Une espèce de Donald Trump wish. Pour vrai, il a vraiment l'air d'une caricature de Donald Trump. Il est comme encore plus ridicule que lui. C'est vraiment spécial que les gens votent bizarrement. Sauf que les statistiques sont sorties récemment sur les États-Unis, puis... Je pense pas que ça soit très différent dans les autres pays, y compris le nôtre. Je pense que, bon, okay. Globalement, on est plus éduqués que les Américains. On a un plus haut pourcentage de population qui font des études supérieures. Mais il y a une bonne partie qui sont des illettrés fonctionnels. C'est-à-dire que ils sont capables de lire les mots, ils comprennent les sons que ça fait. J-O-E, ça fait Joe. B-I-D-E-N, ça fait Biden. Ils comprennent les mots, mais ils ne comprennent pas les phrases. Ils ne comprennent pas les paragraphes, ne comprennent pas le sens du texte. Donc, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui ont les argumentaires les plus simples. Donald Trump, c'est quoi ses arguments? Tous des pourris, tous des corrompus. Lui, c'est un cave, lui, c'est un débile. C'est pas mal ça, là. Ça, les gens comprennent ça. On creusait des puits de pétrole, on achetait du gaz, de l'argent. On a de l'argent. Ça, c'est facile à comprendre. Sauf que le progrès, c'est pas quelque chose qui est simple. Fait que quand t'es un progressiste et que tu essaies de faire avancer tes idées progressistes, il faut que les gens réfléchissent. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est bon là-dedans ou qui aime ça faire ça. Ouais, c'est ça, Nancy. Build the wall. Ça, c'est facile à comprendre. Un fameux. Les immigrants, des violeurs, là, ont fait un mur. Un gros mur. Le plus gros mur que tes gros murs que t'as vu. Ah, ça, ça marche. Par contre, mieux encadrer l'immigration, les orienter vers... Ah non, c'est compliqué. Mais un mur. Puis au Canada, c'est pareil, là. Je sais peut-être pas les mêmes pourcentages dans les mêmes proportions, mais on en a beaucoup d'épais. On en a beaucoup d'épais. On a beaucoup de gens qui sont plus impressionnés par un politicien qui a de l'air au-dessus de ses affaires puis qui répond d'une façon hautaine en bouffant une pomme que par, je sais pas moi, le nouveau parti démocrate qui vont essayer, je sais pas, Jack Meeting qui va essayer de faire comprendre des mesures ou des réformes qui feraient avancer la société. Ah non, l'autre, je veux voter pour l'autre, là. Comment il s'appelle, là, le cool là, avec la pomme. Lui, il est cool. C'est ça. Continuez de voter pour le plus cool, gang de cave. Après ça, vous vous demanderez pourquoi vos droits puis vos libertés que vous pensez défendre en votant pour des libertariens finissent par être attaqués. Quand vous vous rendez compte aussi qu'il y a de plus en plus d'inéquités entre les classes sociales, que les riches s'enrichissent de plus en plus puis que les pauvres s'appauvrissent de plus en plus parce que... les riches sont amis du pouvoir, tirent des ficelles, parce que vous vous êtes laissé convaincre par des crosseurs comme Donald Trump. Tu sais, c'est... On a les politiciens qu'on mérite. Les politiciens sont le produit de la société et pas l'inverse. Donald Trump, là, c'est un Américain, là. Il était à l'école aux États-Unis, il était élevé par des parents américains, puis il a grandi, puis il s'est fait une tête, il s'est fait une personnalité aux États-Unis. Poilievre, c'est un Canadien. Il était élevé au Canada, avec des valeurs qu'il a apprises ici, dans la société canadienne. Même Maxime Bernier. C'est pour ça qu'on a avantage à investir de plus en plus dans l'éducation et combattre la désinformation le plus possible. D'ailleurs, j'ai vu passer une nouvelle, je ne l'ai pas retenue, mais on parle de la paresse de la génération actuelle qui fait appel à Google pour régler tous les problèmes, puis à l'intelligence artificielle, puis de moins en moins les gens passent de temps à faire l'effort de réfléchir. On va sur YouTube, on écoute du monde, on va sur Internet, on lit des affaires. Puis l'affaire qui nous a d'habitude le mieux divertis, c'est celle qu'on épouse puis qu'on décide que ça fait partie de nos valeurs maintenant. Puis on fait pas tout le travail de réflexion qui devrait précéder une prise de position. On choisit l'influenceur qui nous rejoint le plus, qui nous fait le plus triper, ou le politicien. Quand je dis influenceur, je parle pas des filles qui posent en toton sur Instagram, ou bien des gars qui flexent leurs muscles sur, sur Instagram aussi. Ou des tatas qui font des petites vidéos TikTok. Je parle aussi des politiciens qui sont des influenceurs. Ben, c'est ça. Maintenant, c'est du culte de la personnalité. On choisit quelqu'un, celui qu'on aime le plus, qu'on trouve le plus cool, qui nous fait le plus rire, puis capoter, puis triper, puis qui nous rejoint, puis on... on épouse toutes ses visions et ses politiques et ses raisonnements sans faire l'effort de réfléchir. Pas tout le monde. Mais de plus en plus, ce phénomène-là est en train de s'accentuer. Puis c'est peut-être pour ça qu'on a arrêté d'évoluer sur un plan politique. On ne valorise plus les facultés intellectuelles, puis non. C'est juste d'être cool. Manger une pomme en ayant l'air de toutes ses affaires. Ça, c'est cool. Traiter ses adversaires de tout et non, comme Trump fait. Ça, c'est cool. On vote pour celui qui donne le meilleur show. La politique, ça a toujours eu une grosse portion spectacle. Maintenant, ce n'est que ça. Ben, je vous laisse déprimer là-dessus. Et on s'en reparle demain. À midi et demi. Salut tout le monde.
Membre de la famille H2O Web Media. Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.